peut-être vous paraître un peu dur. C'est pour ça que j'ai prié un petit peu tout à l'heure aussi en disant qu'il fallait que nous soyons sensibles à ce que disait le Seigneur. Ah, et que si parfois le Seigneur nous réprimandait, ce n'était pas pour nous humilier, mais au contraire, pour nous rendre heureux. Je vais lire un premier passage qui se trouve dans le livre, premier livre de Samuel, au chapitre 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient pas selon ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama et lui dirent « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Cela déplut à Samuel qu'il dise « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur lui. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers, ou encore ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs de milliers et des chefs de cinquantaine. Il les emploiera à labourer ses terres et à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes. Il la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes. Il se servira d'eux pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous serez vous-même ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. » Le peuple refusa d'écouter Samuel. « Cela ne fait rien, dirent-ils, il y aura quand même un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et nous conduira dans ces guerres. » Après avoir entendu toutes les paroles du peuple, Samuel les répéta à l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Écoute-les et établis un roi sur eux. » Je lirai un autre passage qui se trouve toujours dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, au chapitre 63. Je me suis trompé de référence. Non, aussi c'est 63, pardon. À partir du verset 15. « Regarde du haut du ciel et constate la situation. Du haut de ta sainteté et splendide résidence, où sont passés ton zèle et ta puissance, ta profonde tendresse et tes compassions? Où sont tes compassions envers moi ne se font plus sentir? C'est toi, cependant, qui es notre Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père. C'est toi qui, depuis toujours, s'appelle notre libérateur. Éternel, pourquoi nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur pour qu'il ne te craigne pas? Reviens à cause de tes serviteurs, à cause des tribus qui t'appartiennent. Ton peuple saint n'a été que peu de temps en possession du pays et nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Regarde du haut du ciel, de ta splendide demeure, et constate la situation. C'est ce que le peuple d'Israël a dit au Seigneur. Ta profonde tendresse et tes compassions envers moi ne se font plus sentir. Voilà ce que le peuple a dit à son Dieu. Ton peuple saint n'a été que peu de temps en possession du pays. Nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces plus ta souveraineté. Voilà le cri du peuple d'Israël à un moment à leur Dieu. Bien sûr, c'est le peuple d'Israël, mais on peut aussi prendre ce texte-là pour nous, pour notre peuple, nos propres peuples. Quand on voit la situation dans laquelle il est, la dégradation du pays dans beaucoup de domaines, on peut, nous, en tant que chrétiens, nous adresser à Dieu et dire la même chose. Regarde, Seigneur, du haut du ciel, et constate la situation. Constate la situation. Est-ce que ce n'est pas une prière juste ? Constate la situation. Mais je dirais que, aussi bien pour nous aujourd'hui que pour le peuple d'Israël à l'époque, c'est quand même un peu gonflé que de dire ça. Parce que si la situation du pays est ce qu'elle est, ce n'est pas parce que Dieu a voulu qu'elle soit comme ça, mais c'est parce que le peuple n'a pas entendu l'appel du Seigneur et n'en a fait qu'à sa tête. C'est la raison pour laquelle le pays est dans une situation difficile. C'était le cas pour le peuple d'Israël au moment où ces textes ont été écrits, mais c'est aussi la même chose pour notre pays aujourd'hui. Les difficultés que notre pays rencontre ne sont pas dues à ce que le Seigneur n'a pas compassion de nous. Elles sont dues au fait que l'on se moque pas mal de ce que le Seigneur dit et nous prescrit. C'est la raison pour laquelle le pays va mal. Est-ce que nous nous en rendons compte ? Si la France est dans un mauvais état, bon, on peut en discuter, hein. C'est quand même à cause de mauvais choix. Ah, vous allez me dire, mais oui, d'accord, je suis d'accord avec ça, mais en quoi, moi, en suis-je responsable ? C'est vrai que personne d'entre nous n'est suffisamment important pour pouvoir dire que si telle ou telle chose se passe dans le pays, c'est à cause de moi. C'est vrai. Individuellement, l'impact que nous pouvons avoir sur le pays est évidemment minime. Ceci étant dit, c'est un proverbe populaire qui dit « Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ». Le problème, c'est l'accumulation des désobéissances qui fait que le pays est dans un état triste. Alors, je dirais ceci. Il y a une chose qui me paraît importante. À l'époque de Samuel, le pays d'Israël marchait relativement bien. Et il ne dit pas qu'il n'avait jamais de problème, mais finalement, il finissait toujours par bien s'en sortir. Parce que c'était Samuel qui était à la tête du pays. Le problème, c'est que Samuel, devenu vieux, a voulu laisser la place à ses fils, qui, eux, ne suivaient pas les voies de Samuel. Et à cause de ça, le peuple d'Israël a demandé à Samuel d'installer sur le pays un roi comme pour les autres nations, avec les conséquences que ça allait avoir. C'était un mauvais choix. Et le peuple d'Israël en a payé les conséquences. Pas immédiatement, c'est vrai qu'il y a eu le roi David, il y a eu Salomon, je ne dis pas le contraire. Mais finalement, il a payé les conséquences de ses mauvais choix. Je dirais, quels sont les fils de Samuel aujourd'hui? Les fils de Samuel, ce sont ceux qui ont des responsabilités et qui ne font pas ce qu'ils devraient faire et qui incitent le pays à finalement prendre de mauvais choix. Quel est le rapport avec nous? Je dis que qu'est-ce que Jésus a dit à propos de l'Église? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais il a dit aussi, si le sel perd de sa saveur, il n'y a rien qui peut la lui rendre. Est-ce que le discours de l'Église a encore la saveur qu'elle devrait avoir? Est-ce que le discours de l'Église n'est pas devenu un discours insipide? Est-ce que le discours de l'Église n'est pas devenu complaisant avec l'esprit du monde? Malheureusement, j'ai l'impression que un peu oui. Je ne dis pas que l'Église est responsable de tout. Bien entendu, chacun a ses responsabilités propres. Mais il faut faire attention. Nous avons notre propre responsabilité, notre mission à nous tous. C'est aussi d'annoncer la parole de Jésus-Christ, pas la parole des philosophes plus ou moins véreux. Notre rôle, c'est d'annoncer la parole de Jésus-Christ et pas une autre. Malheur à l'Église quand le message qu'elle prononce n'est plus celui de Dieu. Malheur aux fils de Samuel parce que leur discours n'était plus le discours de Dieu. Et à cause de cela, le pays a pris des mauvais choix et il en a payé les conséquences. Il faut que l'Église soit claire par rapport au message qu'elle transmet. Et il faut que nous en soyons conscients. La réponse de Dieu. Ésaïe 65. Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici. Me voici à une nation qui ne faisait pas appel à mon nom. À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche sur une mauvaise voie en poursuivant ses pensées. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Me voici, dit Seigneur. Sans arrêt, j'ai tendu les mains vers lui. Mais ils n'ont pas voulu entendre ce que je disais. Ils ont continué à n'en faire qu'à leur tête. C'est un peuple qui ne cesse de m'irriter en face en offrant des sacrifices dans les jardins et en faisant brûler de l'encens sur les briques. Il habite dans les tombeaux et passe la nuit dans des endroits bien gardés. Il mange de la viande de porc et remplit ses plats d'aliments impurs. Oh, je sais bien que ce n'est pas un discours qui est forcément plaisant à entendre. Je lis. Tout cela reste écrit devant moi. Je ne garderai pas le silence, dit le Seigneur, mais je réglerai mes comptes. Oui, je réglerai mes comptes avec eux. Je vous ferai payer vos fautes ainsi que celles de vos ancêtres, dit l'Éternel, parce qu'ils ont fait brûler de l'encens sur les montagnes et ils m'ont insulté sur les collines. Je calculerai le salaire de leurs actions passées et je leur parlerai. Ah, ça, c'est une parole qui n'est pas dite souvent, parce qu'on aime mieux des paroles plus lénifiantes. Ça, c'est une parole de reproche. Je vous ferai payer vos fautes, dit Seigneur. Je réglerai mes comptes. Il faut que nous entendions cette parole aussi. Bien sûr que le Seigneur est rempli de bonté et de compassion, lent à la colère. Mais ceci étant dit, le péché continue à lui faire horreur. Et si nous n'y prenons pas garde, le Seigneur nous le fait savoir. Et il faut que nous tenions compte de ça. Ceci étant dit, Dieu n'est pas injuste. Dans Hébreux, il est dit aussi que Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que vous avez rendus aux saints et que vous continuez à rendre. Il n'est pas injuste. Voici ce que dit l'Éternel. Quand on trouve du jus dans une grappe, on dit ne détruis pas, car elle contient une bénédiction. J'agirai de la même manière à cause de mes serviteurs. Je ne détruirai pas tout. Je ferai sortir de Jacob une descendance et de Juda celui qui prendra possession de mes montagnes. Ceux que je choisis en prendront possession. Mes serviteurs y habiteront. Pour mon peuple, pour ceux qui m'auront recherché, le Saron servira de domaine au petit bétail et la vallée d'Accor de lieu de repos au gros bétail. Mais pour ceux qui abandonnent l'Éternel, qui oublient ma montagne sainte et qui dressent une table pour le Dieu de la chance et remplissent une coupe pour le Dieu du destin, je les destine à l'épée et ils devront tous s'agenouiller pour être égorgés. Ça, ce n'est pas une parole qui est facile à entendre, mais elle est quand même sortie de la parole de Dieu et nous devons l'entendre. Dieu n'est pas injuste pour oublier les bienfaits que les uns et les autres ont faits et continuent à faire. Et pour ceux qui cherchent Dieu, qui l'auront recherché, il est dit qu'ils habiteront le pays. Le Saron servira de domaine au petit bétail et la vallée d'Accor de lieu de repos pour le gros bétail. Mais pour ceux qui se détournent de Dieu et qui se vouent au Dieu de la chance, c'est ce qui est précisé ici, une coupe pour le Dieu du destin et pour le Dieu de la chance. Le Dieu de la chance, c'est quoi? La chance est aveugle. La chance distribue ses bienfaits n'importe comment. Il y a des gens qui se comportent comme des... Enfin, je ne trouve pas le mot, ou alors j'en trouve un qui serait un petit peu trop vulgaire, donc je ne le dirai pas. Comme des sagouins, si on veut. La chance arrive quelquefois sur des gens qui n'ont rien fait, en tout cas pour la mériter. Par contre, il y a des gens qui essayent de faire de tout de leur mieux et qui se voient quelquefois accablés. Le Dieu de la chance, c'est un Dieu profondément injuste. Si nous ne nous confions pas en Dieu, c'est en Dieu de la chance que nous nous confions. Si j'ai de la chance, je ne serai pas malade. Si j'ai de la chance, j'aurai un travail. Si j'ai de la chance, mes enfants réussiront dans leurs études. Si j'ai de la chance, je gagnerai au loto. Mais si je n'ai pas de chance, qu'est-ce qui m'arrivera? Il ne faut pas remettre notre sort au Dieu de la chance, parce que c'est un Dieu qui est profondément injuste. Recommande ton sort à l'Éternel, dit la parole, et il agira. Oui, il agira. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Amen. Est-ce que nous entendons cette voix-là? Je ne voudrais pas rester simplement sur un accent triste, un accent dur. Mais il faut quand même que nous ayons entendu ce que j'ai dit aujourd'hui, parce que je suis persuadé que le Seigneur voulait nous le dire. Faisons attention. Si tu considères le péché comme étant pas grave, si tu continues à ne pas t'en préoccuper et tu continues à agir de la même manière alors que le Seigneur t'a repris, alors il ne faudra pas t'étonner si par la suite tu as des problèmes. Terrible verset quand même. À ceux qui se détournent de Dieu, je vous destine à l'épée et vous devrez tous vous agenouiller pour être égorgés. Dur quand même. L'évangile, je regrette, ça n'est pas le salut accordé à tout le monde. Certains auraient voulu que ce soit comme ça. Vous avez le droit de le souhaiter. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. De deux qui seront au champ ensemble, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors faisons attention. Ne nous laissons pas séduire par les sirènes du Dieu de la chance et du Dieu du destin. C'est en Dieu que nous avons la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre chemin que le chemin que nous a montré Jésus. Et il est lui-même le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne viendra au Père que par moi. Alors faisons attention. Le Dieu de la chance vous donnera de l'illusion pendant un certain temps. Mais finalement, vous serez perdant. Mais heureusement, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de la vérité. Et celui qui prêtera serment dans le pays le fera au nom de Dieu de vérité. Les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Voilà ce que dit le Seigneur. En effet, je crée un nouveau ciel et une nouvelle terre. On ne se souviendra plus des premiers événements. Ils ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Je crée Jérusalem pour qu'elle soit une source d'allégresse et son peuple pour qu'il soit une source de joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs ni les cris de détresse. Il n'y aura plus de nouveau-nés qui vivent quelques jours seulement, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir terminé tout son parcours. Voilà ce que dit le Seigneur. Seigneur, je te loue pour ta bonté. Parce que si tu nous reprends, Seigneur, ce n'est pas pour nous humilier. Tu ne prends pas plaisir à voir quiconque dans la boue. Si tu le reprends, Seigneur, c'est pour qu'il réalise qu'il est dans une mauvaise voie qui le mène à sa propre perdition. Seigneur, je te loue, Seigneur, parce que tu prends encore la peine de nous rappeler ces choses aujourd'hui, afin que nous réagissions et que nous nous rendions compte que la chance que nous avons, qu'aujourd'hui et ce matin, le Seigneur a encore renouvelé ses bontés pour nous en nous envoyant l'esprit de repentance, afin que nous changions de chemin si c'est un mauvais chemin que nous avons emprunté. Seigneur, je te prie que nous entendions cette voix. Je te prie aussi pour l'Église, pour qu'elle ne se trompe pas de message, même si le message n'est pas reçu par les médias, même s'il n'est pas reçu par la majorité de la population. Le message de l'Évangile reste le message de la vérité. Il n'y a pas d'autre chemin que celui qui consiste à suivre Jésus-Christ pour être sauvé. Je te prie, Seigneur, pour que le monde l'entende, pour que le monde et que l'Église fassent entendre cette voix de façon claire, que le message ne soit pas confus, qu'il ne soit pas ambigu. Seigneur, c'est toi que je veux suivre et je ne veux suivre aucun autre. Je ne veux pas laisser ma vie au Dieu de la chance. Je ne veux pas jouer ma vie au dé. Je ne veux pas espérer simplement que je pourrai m'en sortir parce que je vais jouer au tiercé. Seigneur, ce n'est pas ça que le Seigneur me demande. Seigneur, tu as renouvelé tes bontés pour moi. C'est pour toi que je veux vivre, c'est toi que je veux honorer, c'est toi que je veux glorifier, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, c'est toi qui as le meilleur pour moi. Et quand toutes choses seront terminées, eh bien, je serai encore avec toi. Moi et ma maison, je servirai toujours l'Éternel. Amen. J'espère que c'est votre prière. Et peut-être qu'on pourrait avoir un tout petit moment pour